écoutez
Un monde déjà sur les dents, imagine le pire. Un texte de Richard Latendresse, paru le 22 juillet 2023 dans le Journal de Montréal. Si vous avez le sentiment que tout semble mal aller depuis quelque temps avec la guerre en Ukraine qui s'éternise, les chaleurs intenses qui s'étendent et se prolongent et le repli que subit la démocratie ici et là, certains entrevoient pire encore à l'horizon. Le Forum d'Aspen sur la sécurité a pris fin hier au Colorado. Il s'agit d'une grande rencontre annuelle de dirigeants, de gens d'affaires et de penseurs, jeunes et plus vieux, qui discutent grosso modo des menaces à la paix dans le monde. Sur place, mes collègues du média en ligne Politico ont relevé qu'aussi bavards pouvaient être les conférenciers, il s'est avéré impossible de les faire parler sur Donald Trump et ce que pourrait signifier pour le reste de la planète son retour à la Maison-Blanche. Il y a de quoi effectivement faire des cauchemars. Ce qu'on admet en privé. Politico raconte qu'à voix basse, certains expriment leur appréhension à l'égard d'un retour de Trump, le chaos étant, à avouer anonymement un ancien membre de son administration, une façon très difficile de gouverner. Il y a d'abord, bien sûr, ce que deviendrait le soutien des États-Unis à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. L'ex-président prétend qu'il pourrait y mettre fin en 24 heures. Une affirmation loufoque dans un conflit aussi sauvage et complexe, mais à laquelle John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale, a répondu avec le plus de mordant en mai dernier sur les ondes de CNN. Aucune personne rationnelle ne croit que l'on puisse amener les Ukrainiens et les Russes à s'entendre sur la manière de résoudre le conflit en 24 heures. Trump a l'impression que les dirigeants étrangers, en particulier ses adversaires, le tiennent en haute estime, qu'il entretient de bonnes relations avec Xi Jinping, Vladimir Poutine, Kim Jong-un. En fait, le contraire est vrai. J'ai été dans ses pièces avec lui lorsqu'il a rencontré ses dirigeants. Je crois qu'ils pensent tous qu'il est un risible imbécile. Une réussite coûteuse. En politique étrangère, Donald Trump se vante de ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres. Un succès effectivement après les bourbiers afghans et irakiens dans lesquels ont sombré George W. Bush et Barack Obama. Du même élan toutefois, il s'est assuré que des conflits latents ne trouvent pas de solution. Les fameux accords d'Abraham, normalisant les relations entre Israël et quatre pays arabes, ont été conclus avec un désintérêt complet pour le sort des Palestiniens auxquels, d'ailleurs, il a retiré 200 millions de dollars en aide humanitaire. L'annulation de l'accord sur le programme nucléaire iranien s'est révélée un spectaculaire échec, Téhéran reprenant l'enrichissement de l'uranium plutôt que de faire la moindre concession. Ces lettres d'amour et ses rencontres avec le leader nord-coréen Kim Jong-un n'ont conduit à rien d'autre que la poursuite du programme de missiles balistiques de Pyongyang, alors que les pressions commerciales mises sur la Chine ont amorcé l'éloignement des deux plus grandes puissances économiques. Il est loin d'être exclu que Trump remporte la prochaine élection présidentielle et recrée à la Maison-Blanche le tumulte de ses quatre premières années. Entre-temps, comme l'ont reconnu des participants au Forum d'Aspen, apprécions la normalité et la prévisibilité que Joe Biden a réintroduite dans le bureau ovale depuis 2 ans et demi. C'était « Un monde déjà sur les dents, imagine le pire ». Un texte de Richard Latendresse paru le 22 juillet 2023 dans le Journal de Montréal.
Tousser ou pas avec Hollywood. Une chronique d'Odile Tremblay parue le 10 août 2023 dans Le Devoir. En voyant George Clooney, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, ou autre divinité descendue de l'Olympe, offrir, magnanime, 1 million ou plus à des guildes d'acteurs américains désormais en grève, certains ricanent. Mais de quoi manquent donc ces milliardaires? qu'est-ce qu'un million pour eux? » Même haussement d'épaule, quand les stars hollywoodiennes militent pour le climat, tout en polluant l'atmosphère avec leurs jets privés. Regardez donc qui nous fait la morale, lance des citoyens lambda désabusés. La photo collective relève de la caricature, il est vrai. On dirait des châtelains jetant au peuple des miettes de pain du haut de leur créneau. Ces messieurs-dames brillent de mille feux célestes. En bas, des officiants de l'ombre en arrachent sur les plateaux et servent du whisky dans des bars de Los Angeles le soir pour boucler leur fin de mois. Hôte de deux univers aux antipodes, Clooney et le gars qui lui sert de doublure? Oui et non. Après tout, lorsque cette puissante industrie audiovisuelle a la langue à terre, chacun de ses membres pâtit de concert. Tout bien réfléchi, laissons les vedettes scintillantes servir de porte-voix aux damnés de la profession. Les gens les connaissent. Leur solidarité avec la cause des scénaristes et des acteurs en grève frappe les esprits. Comme les paysages changent vite. Pour l'instant, on s'en aperçoit à peine, mais voyez, rebond post-pandémique. Cannes accueillait en mai un parterre de stars plus garni et caquetant que jamais. Dans les salles de l'été, les spectateurs se ruent sur Barbie et autres blockbusters, également sur leurs œuvres nationales. Reste que la machine à images hollywoodienne se disloque, avec effet domino partout. Au Festival de l'automne, Venise et Toronto n'auront guère de vedettes américaines à jeter en pâture aux caméras. Hollywood tient le haut du pavé dans l'imaginaire planétaire. Sans les têtes d'affiche de Hollywood, les télés retransmettront, avec moins de zèle, les moments forts de ces rendez-vous. La saison des Oscars et des grands lauriers audiovisuels américains se voit compromise. Si les stars sont toujours en grève, qui assurera la promo-choc des films en défilant sur leur tapis rouge? La sortie de Dune 2 de Denis Villeneuve se voit reportée à novembre 2024. D'autres grosses pointures suivront ces brisées. Exit les tournages américains à Montréal, à Toronto ou à Vancouver. Le prochain Festival de Cannes écopera, même si le vent tourne. Tous ces films repoussés, ces scénarios non écrits, déstabiliseront sa croisette. Et pourtant, les insoumis ont eu raison de débrayer pour forcer les grands studios et les plateformes en ligne à modifier leur façon de faire. L'industrie américaine ne s'est pas adaptée aux nouvelles réalités du terrain. Le combat d'Ottawa contre les géants du web a le mérite d'affronter les problèmes de l'heure. Les États-Unis sont moins protectionnistes que le Canada en matière culturelle. Otages des promoteurs privés, ils n'ont rien prévu pour la suite du monde. Désormais, choux et navets pourrissent dans leurs champs comme après un déluge. Pour la première fois depuis 1960, précise Barry Eidlin, professeur de sociologie à l'Université McGill, les acteurs et les scénaristes de Hollywood sont en grève en même temps. À l'époque, la question principale était de savoir comment ils seront rémunérés équitablement pour le travail dans le nouveau monde de la télévision. Aujourd'hui, la question est de savoir comment ils seront rémunérés équitablement dans le monde de la diffusion en continu. Ajoutez le spectre de l'intelligence artificielle flottant sur les négociations en cours, avec menace de remplacer non seulement des auteurs et interprètes, mais aussi ceux qui bossent sur les tournages, maquilleurs, décorateurs et compagnie. Il en résulte une bataille existentielle pour l'avenir de la production culturelle des États-Unis et au-delà, conclut avec raison Barry Eidlin. Beaucoup d'argent et de chambardement sont en jeu. Alors, les producteurs refusent de céder le bout de gras. Les pourparlers devraient s'étirer. On est trop inféodé à Hollywood. Si on faisait un pas de côté, quand cet empire vacille, d'autres joueurs ont la chance d'émerger. Dans les grands festivals, des œuvres d'ici ou d'ailleurs peuvent prendre la lumière. Sur les plateformes, les productions étrangères se verront plus sollicitées qu'avant. Notre septième art roule bien. Faute d'Oscars dignes de ce nom, les Québécois pourraient suivre leur gala cinéma désormais sur Nouveau avec un enthousiasme retrouvé. On ne souhaite le malheur à personne, mais la crise à Hollywood invite les autres cinématographies à changer leur modus operandi en montrant de quel bois elles se chauffent. Rêvons, rêvons. Prenons la balle au bond, surtout. C'était « Tousser ou pas avec Hollywood », une chronique d'Odile Tremblay, parue le 10 août 2023 dans Le Devoir.
Sherbrookeoise sera canonisée en octobre. Un texte d'Ariane Aubert-Bonne paru le 2 juillet 2024 dans la Tribune de Sherbrooke. La fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille de Sherbrooke sera canonisée en octobre. Les cardinaux présents à Rome et le pape François se sont réunis lundi pour annoncer que Mère Marie-Léonie, née Élodie Paradis, fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte Famille, deviendra sainte. La Sherbrookeoise a vécu de 1840 à 1912 et avait déjà été béatifiée à Montréal le 11 septembre en 1984 par le pape Jean-Paul II. Le 20 octobre 2024, elle sera canonisée de concert avec 11 martyrs de Damas et deux autres fondateurs de communautés religieuses. Il s'agit de Giuseppe Alamano pour les missionnaires de la Consolata et Elena Guerra pour les Oblates dello Spirito Santo. L'annonce de la canonisation de Mère Marie-Léonie survient l'année du 150e anniversaire de la fondation de l'archidiocèse de Sherbrooke. Des événements organisés par le diocèse de Sherbrooke se tiendront en marge de la canonisation de la Bienheureuse à Rome. Femme de multiples missions. Élodie Paradis est entrée chez les sœurs marianites de la Sainte-Croix à l'âge de 14 ans. Elle a enseigné à Varennes, Saint-Laurent, de Montréal et Saint-Martin-de-Laval avant de se rendre à New York et au Michigan pour enseigner aux Canadiens français qui émigraient aux États-Unis. Elle a toujours ressenti un appel à soutenir les prêtres dans leur ministère. Les événements l'ont conduite à fonder une nouvelle communauté, les Petites Sœurs de la Sainte Famille, qui sera reconnue en 1896 par l'évêque de Sherbrooke, Mgr Paul Larocque. Ces femmes, consacrées, travaillent dans les maisons et institutions où œuvrent les prêtres en les accompagnant dans leur ministère, tant au plan matériel que spirituel. De nombreuses femmes se sont engagées au fil des ans à la suite de la bienheureuse Marie-Léonie Paradis, peut-on lire dans un communiqué du diocèse de Sherbrooke. Le tombeau de Mère Marie-Léonie se trouve à la basilique cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke depuis 2017. C'était « Une Sherbrookeoise sera canonisée en octobre », un texte d'Ariane Aubert-Bonne, paru le 2 juillet 2024 dans la Tribune de Sherbrooke.
La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Un texte de Marc Cassivi, paru le 7 avril 2024 dans la presse. Règle générale, à moins que vous ne soyez ma mère, je ne réponds pas à votre appel téléphonique. Il y a bien sûr des exceptions. Je ne réponds pas toujours à ma mère. Attention, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas un sociopathe, du moins pas diagnostiqué. La preuve, c'est que je réponds au téléphone quand mes patrons sont au bout du fil, le plus souvent au deuxième appel. Je ne réponds presque jamais à un appel sur ma ligne fixe. J'ai installé chez moi, il y a quelques années, en traficotant quatre fils multicolores avec des embouts de cuivre, un vieux téléphone à cadran beige des années 1960. Il fonctionne. Fiston m'a appelé sur mon téléphone intelligent en faisant glisser ses doigts sur le disque rotatif de cette antiquité. Jamais a-t-on vu un être humain doué de raison prendre plus de temps pour composer un numéro local. Exceptionnellement, j'ai répondu, même si j'étais à ses côtés. Pour voir ses yeux s'illuminer devant ce miracle de la technologie moderne, comme ceux d'Alexander Graham Bell quand il a entendu dans le combiné la voix de Tom Watson. Ce que j'apprécie le plus de ce téléphone beige, outre sa couleur passe-partout, c'est qu'il ne sonne pas. Le dispositif est brisé. Il faut tendre l'oreille afin de percevoir dans une pièce à l'étage, la sonnerie d'un téléphone plus moderne. Puis, au moment de répondre, il faut attendre 2 secondes avant d'être en ligne. Vous avez dit « vintage » Avertissement, me laisser un message vocal sur une ligne fixe, à la maison ou au bureau, c'est courir le risque que je ne l'entende pas avant la prochaine éclipse solaire. Je n'ai plus d'appareil téléphonique à mon poste, au bureau. Pourquoi ai-je toujours une ligne fixe à la maison? Pour une seule et très bonne raison, je suis très fière que mon bricolage de fils multicolores ait fonctionné. D'un côté, j'ai un téléphone à cadran, plus vieux que moi, qui ne sonne pas. De l'autre, un téléphone intelligent réglé en permanence en mode silence, aussi sourd aux appels de mes amis et de mes connaissances qu'à ceux des arnaqueurs et télémarketeurs. « Pourquoi tu ne réponds jamais au téléphone ?» me demande-t-on souvent avec un ton qui trahit une subtile frustration. Réponse diplomatique. « La sonnerie de mon téléphone cellulaire est coupée parce que je suis souvent au cinéma, ce qui est vrai. » Réponse moins diplomatique. Si certaines réunions peuvent se résumer dans un courriel, plusieurs appels devraient se traduire par un texto. Des deux camps bien distincts qui se dessinent dans le reportage de ma collègue Olivia Lévy, je me range résolument dans celui qui ne veut pas être dérangé par un appel. Mon credo? La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. À d'autres, le « Votre appel est important pour nous. » Jésus en personne disait qu'il y avait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je les plains tous. Je ne suis candidat à aucune élection. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez surtout pas sans m'avoir au préalable averti de cette intrusion dans ma vie privée par texto. Je risque malheureusement de rater votre appel. Quel culot il faut quand même, pour appeler sans avertissement, est-ce que je sonne chez vous à l'improviste, moi, en réclamant qu'on me serve le déjeuner illico? Une chance que j'ai, en plus d'un téléphone à cadran défectueux, c'est d'être heureux propriétaire d'un téléphone intelligent en perte d'autonomie, de batterie. Mon vieux téléphone cellulaire cesse de fonctionner fréquemment et inopinément, ce qui me fournit un autre prétexte pour justifier tous ces appels ratés. J'ai une relation d'amour-haine avec cet appareil diabolique, pourtant si utile, qui me siphonne du temps et de l'énergie. Mon père n'a pas de téléphone intelligent et ne s'en porte pas plus mal. Fiston, lui, songe carrément à troquer son sel pour un flip. Afin de se libérer des chaînes de cette laisse électronique, à commencer par le dictat de l'instantanéité. La dernière mode chez les jeunes adultes, m'explique-t-il, est de ne surtout pas répondre sur le champ à un message texte. Afin de ne pas donner l'impression que l'on est devenu esclave de son téléphone et pour se convaincre que l'on a une vie à vivre loin des technologies. Le téléphone de Fiston lui sert surtout à écouter de la musique. Inutile de préciser qu'il ne répond pas plus rapidement à mes appels qu'à mes textos. Il a sorti des boulamites le vieux Discman de sa mère. Après avoir adopté le 33 tours, voilà qu'il achète des CD. Ma discothèque, qui ramasse la poussière au sous-sol depuis des années, sert de nouveau. Je ne serais pas surpris qu'il fouille dans mes vieilles cassettes des années 1980 et 1990, lui qui a adoré le film « Perfect Days » de Wim Wenders. On assiste, chez certains, au retour du balancier technologique. J'aurais aimé pouvoir en dire autant du couple de mon âge, assis aux côtés de ma mère et moi au théâtre, il y a 2 semaines. Accro à leur téléphone au point de les consulter pendant 15 minutes, jusqu'à ce qu'un placier vienne les avertir de les ranger. Sans le moindre scrupule, la luminosité de leur appareil au maximum, devant des acteurs en chair et en os. Au théâtre, comme en toutes circonstances, la sonnerie de mon téléphone est éteinte. Par respect pour les autres spectateurs, et aussi, si je suis bien franc, parce que c'est une bonne raison de ne jamais répondre au téléphone. Je le répète, il y a bien sûr des exceptions. Rien de tout ça ne s'applique à toi, maman. C'était « La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible », un texte de Marc Cassivi, paru le 7 avril 2024 dans la presse.
La pauvreté bombe à retardement de nos sociétés. Un texte de Maka Koto, paru le 24 juillet 2023 dans le Journal de Montréal. Une concertation collective s'impose. Des appels ardents pour l'égalité et la justice sociale se font de plus en plus insistants et incontournables. Il est crucial que les projecteurs restent braqués sur cette cause essentielle. Les incitations à agir se font de plus en plus pressantes et ne sauraient être négligées. Il y a parfois des mots, des phrases, des lettres qui résonnent en nous avec la force d'un tocsin. Ces mots nous appellent, nous interpellent, nous sommes de regarder la réalité en face. Ainsi en est-il de la lettre ouverte sur la problématique de la pauvreté, parue le 21 juillet 2023 dans la presse, est signé par Mirlande Pierre et Suzanne Arpin. Ces deux vice-présidentes éminentes de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse traitent avec une vivacité et une pertinence remarquables une question persistante, l'inégalité. Elles ont su décrire de manière magistrale les diverses facettes de l'inégalité économique en matière de logement, dans l'éducation et face à l'accès aux services sociaux. Ces domaines reflètent les visages multiples de la pauvreté et de l'exclusion sociale qui sont autant de manifestations stridentes de l'inégalité. Le prix exorbitant de l'inaction. Prendre conscience de la gravité de la situation n'est pas seulement un impératif, c'est une nécessité absolue. Ignorer cet appel à l'action serait synonyme de conséquences alarmantes à tous les horizons. À court terme, le fossé entre les classes sociales s'élargit, propulsant davantage de personnes dans la précarité. À moyen terme, les pressions sur nos systèmes de santé et de services sociaux risquent de s'intensifier et la cohésion sociale pourrait se dégrader, engendrant des tensions sociales croissantes. À long terme, nous pourrions nous retrouver confrontés à une instabilité sociale et économique insidieuse, à des problèmes croissants de santé publique et de sécurité, ainsi qu'à une société moins éduquée et moins compétitive économiquement. Une responsabilité partagée. Je salue l'engagement de Mirlande Pierre et de Suzanne Arpin, ainsi que leur contribution significative à ce débat essentiel. Leur appel à l'action nous interpelle comme un glas, nous rappelant que la lutte contre la pauvreté et l'inégalité est une responsabilité collective qui transcende les clivages politiques. Que l'on se place à droite, au centre ou à gauche de l'échiquier politique, nous avons tous un rôle à jouer pour bâtir une société plus juste et plus équitable. Ignorer cet appel, c'est courir le risque de se réveiller un jour inopiné dans une société marquée par des conséquences catastrophiques. Il est impératif que nous mettions en mouvement les rouages de la lutte contre la pauvreté et l'inégalité sous toutes leurs formes. Ce n'est pas simplement une question de justice sociale, c'est aussi une question de cohésion sociale et de notre volonté collective d'éliminer les causes profondes de la pauvreté dans toutes ses dimensions. C'était « La pauvreté bombe à retardement de nos sociétés », un texte de Maka Koto paru le 24 juillet 2023 dans le Journal de Montréal.